Radio Cité Genève, Viviane De Witt,
la bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que nous connaissons bien à Radio Cité parce que nous avons eu de la chance qu'elle soit ici avec nous, Catherine Fianco-Bokonga. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Tu es une vieille connaissance de la maison, une grande amie, et aujourd'hui tu es rédactrice en chef d'un journal, d'un mensuel qui attaque sa cinquième année, qui s'appelle La Cité, ce qui est drôle parce que c'était Radio Cité Genève et maintenant tu travailles à La Cité.
Je reste fidèle.
Tu restes fidèle, absolument. Alors on va voir comment tout ça a commencé, et tu connais la question rituelle dans cette émission. Quelle petite fille étais-tu ?
Une petite fille très joyeuse, très curieuse, bilingue, puisqu'une maman flamande et un papa d'origine congolaise. Donc je parlais français avec mon papa et je parlais néerlandais avec ma maman.
Ça, c'était pas tant, parce que c'est bien pour les langues, quand on est enfant, d'en apprendre deux à la fois.
Tout à fait, c'est un mélange. Donc mes phrases étaient composées à moitié avec des mots français, l'autre moitié avec des mots flamands.
Et alors, tu étais donc joyeuse, dis-tu. Tu as été à l'école à quel endroit ?
Alors, je suis née à Genève et j'ai commencé par aller à l'école du quartier puisque nous habitions à La Servette. Et très rapidement, mes parents m'ont mise en institution privée parce que ma première année, nous avions deux classes qui étaient dans la même pièce et j'avais passé mon année scolaire à suivre le programme de l'année supérieure.
Mais tu étais surdouée alors ?
Non, pas du tout, simplement curieuse. Et donc, lorsque l'année scolaire s'est achevée et que j'avais suivi l'autre programme, ma maman a demandé à la maîtresse donc de me faire sauter une classe. Et la maîtresse a dit « Mais ici, ça ne se passe pas comme ça, il faut avoir des autorisations ». Donc, mes parents ont décidé de m'enlever du système public et de me mettre dans une institution privée qui, à l'époque, s'appelait le Pensionnat Marie-Thérèse et qui, aujourd'hui, s'appelle l'Institut International de Lancy.
Et alors, tu étais heureuse à l'école ? Tu étais
très heureuse.
Bonne élève, très heureuse.
Élève moyenne, des matières qui m'intéressaient particulièrement, comme l'histoire, la géographie, les langues. Par la suite, le français, parce que j'ai eu une excellente professeure de français, Madame Jacqueline Menguet. Et j'adorais aller à l'école. Nous étions à l'époque une classe de 41 élèves avec 18 nationalités.
C'est beaucoup, ça. Ouais.
C'était énorme. 18 nationalités. Et aujourd'hui, je suis encore en contact avec plus de 20 copines de l'époque.
C'est sympathique, ça.
Voilà, qui vivent un peu partout dans le monde. Et on essaye de se retrouver à Genève au moins une fois par an.
Ça, c'est extraordinairement sympathique et vivant. Et tu as raison de dire qu'un bon professeur, eh bien, ça vous motive pour la vie.
Tout à fait. Ça crée l'amour de la matière, l'intérêt de la matière. Et dans ce cas-là, Madame Menguet avait sa façon d'éveiller notre curiosité pour une matière qui, au départ, est assez aride.
Alors, ce n'est pas tout à fait étonnant, donc, si tu as fait du journalisme par la suite. Et on va voir alors comment tout ça est arrivé. Alors, entre l'école et le journalisme, j'imagine qu'il y a eu autre chose.
Oui, bon, j'ai une famille paternelle qui est très impliquée dans la politique. Mon père était aussi professeur d'université. Il était le premier fonctionnaire international originaire d'Afrique noire francophone au BIT, le Bureau international du travail, en 1961. Donc, il faisait partie aussi du groupe des 15, à l'époque, sujets congolais du roi Léopold, qui avait eu des bourses, qui avait obtenu des bourses pour aller étudier en Belgique. Donc, il a accompli ses études supérieures à l'Université catholique de Louvain, où il a rencontré ma maman.
Voilà,
ceci explique cela. Et donc, j'ai toujours baigné dans une ambiance, effectivement, très ouverte, cosmopolite, mais aussi un grand amour des cultures, des lettres. Mon père lisait énormément et nous avions énormément de personnes du monde entier qui passaient à la maison pour échanger les idées. Il faut se placer aussi dans le contexte de l'époque. Hein. Donc, dans les années 60, les pays africains vont vers leur indépendance, le monde bouge.
Il y a beaucoup d'effervescence intellectuelle autour.
Beaucoup d'effervescence intellectuelle, effectivement, d'échanges d'idées entre les socialistes de l'époque, les juifs qui sont quand même à la sortie, on va dire, de ce qui s'est passé de la Seconde Guerre mondiale, la construction ou la reconstruction de beaucoup de pays. Donc, il y a avait énormément, énormément d'échanges intellectuels. Et tout ça se passait dans une harmonie et un respect mutuel des cultures et des peuples.
Donc tu as vécu une enfance déjà très intéressante, très impliquée vers tout ce qui est l'humain.
Et très internationale.
Et très internationale. Après, tu es allée à l'université. Qu'est-ce
Alors,
que tu as fait?
Alors d'abord, je suis restée donc de 0 à 12 ans à Genève, au pensionnat Marie-Thérèse. Et puis mon père a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Paris. À l'époque, c'était, il a présenté ses lettres de créance au président Giscard d'Estaing. Donc, c'était la droite qui était au pouvoir en France. Et comme il a présenté ses lettres de créance au mois de décembre, nous avons déménagé au mois de janvier à Paris. Donc, dès cette année-là, 1975, nous nous sommes installés à Paris. Et là, je suis allée, j'ai fréquenté l'Institut de la Tour, puisque c'était un établissement privé, aussi uniquement de filles. Et j'ai poursuivi mes études jusqu'au baccalauréat, un baccalauréat B, donc économie, que j'ai passé donc à l'Institut de la Tour.
Et après, alors qu'est-ce que tu as fait après ?
Alors bon, mon père étant toujours dans la politique, toujours énormément de gens qui passent par la maison, des personnalités non seulement politiques, mais...
Un ambassadeur reçoit par définition.
Exactement, exactement. À l'époque, nous nous plaçons dans le contexte où le Congo est Zaïre, et c'est une période, on va dire, très prospère du Zaïre. Bon, à l'époque, le Zaïre était dirigé par Mobutu, mais 1973-75, c'est une époque où un Zaïre valait 2 dollars américains, où le pays fait partie des plus grands pays donc africains, 2 345 000 km², équivalent à 5 fois la France. De la pointe nord à la pointe sud, c'est Paris-Moscou, donc c'est un espèce de sous-continent sur le continent africain. Et également, donc, cette ouverture vers l'étranger, donc énormément de présentations artistiques. Les artistes congolais, enfin zaïrois à l'époque, qui partent à New York, à Paris, à Londres, la peinture africaine qui commence à être connue, la peinture contemporaine africaine, et puis bon, cette espèce d'échange international très vivant des années 70.
Ça va nous amener droit à la chanson que tu as choisie, Liza Minnelli, New York, New York.
Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of this New York, New York. These vagabond shoes are longing to strike and step around the heart of it, New York, New York. City that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, top of the heap. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I'll make a brand new
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Avec Catherine Fiancan-Bokonga. Catherine, on a vu que tu avais eu une enfance heureuse, une jeunesse studieuse, que tu as été successivement à Genève, puis à Paris avec un père ambassadeur plénipotentiaire. Donc, c'est une vie passionnante, c'est une vie déjà de grande ouverture sur l'étranger, sur tout ce qui aujourd'hui te passionne. Moi, je voudrais savoir, entre cette jeune fille, jeune femme, que l'on quitte à Paris dans les années 75, et la journaliste que tu es devenue à Genève, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, toujours l'intérêt vers l'autre, l'intérêt des cultures différentes, de l'actualité. Mon père, tout en étant ambassadeur à l'époque du Zaïre à Paris, continuait à enseigner parce que mon père a toujours souhaité garder contact avec la réalité. Il disait que avoir des responsabilités politiques était très dangereux parce que votre entourage vous place dans une bulle et vous perdez pied, vous n'avez absolument plus aucun sens de la réalité. C'est la raison pour laquelle il a toujours continué à enseigner, non seulement en Europe, en France, en Belgique, il enseignait également au Canada et aux États-Unis.
Qu'est-ce qu'il enseignait comme matière ?
La sociologie industrielle. Et par la suite, il a partagé son expérience parce qu'il a occupé des postes ministériels. Il a créé la sécurité sociale à l'époque au Congo, puisque c'était sa spécialité. Mais par la suite aussi, il a occupé des responsabilités comme ministre de la Culture et des Arts, qui, d'après lui, était son poste le plus intéressant, le plus passionnant.
C'est sûrement, parce que l'art africain est extraordinaire.
Oui, et puis, comme vous le disiez, pourquoi le journalisme ? Grâce à la position de mes parents, j'ai eu l'occasion de connaître, par exemple, l'épouse d'André Malraux, son directeur de cabinet, de connaître les critiques d'art, Monsieur René Berger, qui était le président de l'Association internationale des critiques d'art, qui vivait à Lausanne. Et mon père avait organisé le premier voyage justement de cette association au Zaïre, avec tout un groupe de sommités, entre autres Suisses, qui s'étaient rendus là-bas. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer des tas d'artistes, Louise de Villemorin, sa sœur, qui sont des personnes qui fréquentaient la maison, mais également donc des grands peintres, des grands artistes, des écrivains, Maurice Druon.
Avec sa célèbre canne à pomme d'or.
Exactement, mais également des acteurs comme Alain Delon, son fils Anthony, qui a été un ami à une époque. Enfin, ce côté très parisien.
Parisien, on l'a dit en même temps.
Parisien, mais également bon, des comédiens. Donc tout ça, c'était très enrichissant. Et des journalistes, Yves Mourouzi, Gérard Saint-Paul, qui m'a initié au journalisme, particulièrement au journalisme de politique étrangère, parce que j'ai commencé par là, un stage à TF1, dans le département de politique étrangère qui était dirigé à l'époque par Gérard Saint-Paul. L'information à 13h, c'était Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry. Dominique Baudis, qui était un ami très très cher.
Qui était maire de Toulouse.
Oui, qui par la suite est devenu maire de Toulouse, mais lui-même était journaliste de terrain. Il avait effectué son service militaire au Liban.
Il avait fait les news à un moment.
Exactement. Il faisait, il présentait le journal du week-end. Après, il est passé sur FR3. Et par la suite, son papa lui a demandé de se présenter à la mairie de Toulouse. Et il est devenu maire de Toulouse. Il a été député, sénateur. Et puis, il a aussi dirigé l'Institut du Monde Arabe, parce que Dominique avait une passion pour le monde arabe. Et c'est lui qui m'a initié, en fait, à cet amour que j'ai aussi du monde arabe et du Liban en particulier. Parce que grâce à Dominique, j'ai rencontré la famille Gemaël. Et moi-même, j'étais à l'université parce que j'ai été à l'université après mon bac à Paris. J'ai suivi des études de droit. Et j'étais en droit avec Isabelle Eddey, donc une grande famille libanaise. Donc, c'était un monde et une vie à la fois insouciante, très riche. Mais nos parents voulaient toujours qu'on ait un contact avec la vraie vie parce qu'ils n'arrêtaient pas de nous répéter que tout ça n'était en fait que des avantages qui étaient liés à la fonction.
Donc, Catherine, qu'est-ce qui t'a fait quitter Paris ? Parce que c'était un monde enchanté et enchanteur pour toi.
Eh bien, Au départ, la fin des études de droit. Je voulais faire Sciences Po également. En fait, j'ai été au droit parce que j'ai raté l'entrée à Sciences Po Paris. Mais je voulais quand même faire Sciences Po. Donc, j'ai été acceptée à Columbia University, donc à New York, pour des études de Sciences Po. Mais comme la rentrée à New York était en décalage, j'avais plusieurs mois où j'étais libre. Donc, je suis restée à Paris. Puis, j'ai vite créé une petite société et je me suis lancée dans les affaires entre-temps.
Qu'est-ce que tu as vendu alors ?
Alors, j'ai juste été consultante parce que tout le monde venait tout le temps me demander des tas de services. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est un métier, ça, de faire des tas de choses. Je me suis aussi rendu compte que par ma curiosité, je me connais assez bien, qu'à Columbia, je finirais jamais vite mes études puisque j'aurais certainement beaucoup trop d'intérêt à visiter les musées, les expositions, rencontrer du monde, sortir. Hein, parce que
New York est un monde fabuleux.
Exactement. Et puis, on vit jour et nuit. Donc, j'ai décidé de faire un master en Sciences Po en un minimum de temps. Et je suis allée dans le Middle West, à l'université de Omaha, Nebraska, faire un master en Sciences Po là-bas en une année. Et entre-temps, je continuais à écrire parce que le journalisme télévision, naturellement, après, j'y suis allée on va dire directement, parce que j'avais cette envie à ce jeune âge. On est un peu révolutionnaire, on veut changer le monde. Donc,
on croit qu'on peut le changer.
Oui, on croit, effectivement. Mais on a énormément d'énergie. Et je me disais qu'avec tout ce que j'entendais, je voyais justement dans le milieu dans lequel j'évoluais, eh bien, il fallait dénoncer certaines choses. Donc, on dénonce les choses comment ? Par le journalisme, par la télévision et l'écriture. Donc, ce sont deux branches dans lesquelles je me suis lancée. Et puis, après le retour des États-Unis, bien, j'ai été nommée diplomate.
Alors, on va passer tout à l'heure à cette partie de ta vie. Et en attendant, on va écouter Elton John.
Cité Genève.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Catherine Fiancob-Okonga dont on vient de voir qu'elle vit riche déjà en tant que petite fille, qu'elle vit riche intellectuellement, socialement, artistiquement en tant que petite fille, jeune femme. Alors tu es donc, tu as fait des solides études puisque tu as fait des études à la fois à Paris, à Columbia, donc à New York, et puis ensuite tu es allé dans le Nebraska. Là, tu reviens avec un solide bagage. Tu es journaliste. Alors, tu commences par quoi ?
L'écriture. Bon, d'abord, il y avait TF1, la télévision. Mais, comme vous le savez, dans les années 80, la gauche est arrivée au pouvoir. Et automatiquement, il y a eu énormément de changements dans les différentes institutions médiatiques, dont la télévision. Donc, naturellement, j'ai fait partie de la première charrette de personnes qui n'étaient plus désirables.
Qui n'étaient plus proches du régime en place, voilà.
Voilà, pour être très clair. Donc, moi, j'ai toujours eu cet amour, justement, du papier, du crayon, des mots. Alors, j'ai commencé à écrire, à publier des articles dans la presse parisienne.
Tu avais abandonné ta petite entreprise de conseil ?
Oui. Tout à fait, vendu.
Bon, vendu, très bien.
Vendu, voilà. Parce qu'elle avait pris une ampleur dont je n'avais plus le contrôle. Nous étions deux, en fait. Une de mes amies, Isabelle, qui était une Française, qui vit actuellement d'ailleurs à Dubaï, et moi-même. Et nous avions atteint un niveau où, en tant que deux jeunes filles d'une vingtaine d'années, ça nous dépassait. On n'avait pas une formation aussi commerciale. Nous avions toutes les deux fait des études de droit et de sciences politiques, donc ça nous échappait. On a préféré vendre notre affaire et puis nous tourner vers d'autres intérêts, des choses qui étaient beaucoup plus proches de notre formation.
Donc, tu es journaliste.
Voilà, donc j'écris. Et puis également, je suis correspondante de 2-3 télévisions américaines à l'époque qui souhaitaient des reportages. Et entre-temps, je reviens vers justement mes origines, le Zaïre. Donc, il y avait très peu, naturellement, de personnes qui avaient effectué des études supérieures parce que mon père faisait partie de la première génération. Donc, mon père étant né en 1932, il faisait partie de ce petit groupuscule de gens qui avaient eu accès à l'éducation de haut niveau. Donc, moi, je faisais partie de la seconde génération. Et de par, justement, mes origines pluriculturelles et le fait que je sois polyglotte et que j'ai fait quand même de bonnes études, donc, ça l'a naturellement intéressé les personnes qui étaient en place au pouvoir. Et j'ai été donc nommée diplomate chargée de la francophonie. Donc, j'étais basée à Paris. Là, nous sommes en 1987. Donc, ce sont les prémices de la francophonie. Donc, on ne sait pas très bien. À l'époque, ça s'appelle Agence internationale culturelle et technique. On ne sait pas très bien si ça va devenir un espèce de Commonwealth à la française. Mais enfin, c'était passionnant et ça m'a permis aussi, une fois de plus, d'élargir mon carnet d'adresses en faisant la connaissance de personnes issues de pays francophones dans le monde.
Passionnant tout ça.
Très intéressant, passionnant, découverte permanente dans tous les domaines. Donc, je suis très heureuse. Je suis basée à Paris, mais je voyage énormément, ce qui correspond tout à fait à mon caractère.
Alors, Catherine, qu'est-ce qui fait qu'on te retrouve à Genève ?
Le mariage.
Ah, tu tombes amoureuse.
Oui, je tombe amoureuse et surtout, je décide de me marier. Donc, je tombe amoureuse d'un homme qui était diamantaire. Donc, rien à voir du tout avec mon milieu, mais quand même un papa qui était le doyen du corps diplomatique à Kinshasa. C'était l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Kinshasa. Mais je n'ai pas rencontré son fils Philippe à Kinshasa. J'ai rencontré son fils Philippe dans un dîner à Paris. Et Philippe vivait en Belgique puisqu'il il travaillait à Anvers.
Donc, flamand.
Alors, il était moitié ivoirien par son papa et sa maman belge, mais bruxelloise.
Bruxelloise,
voilà.
D'accord. Parlant
français.
Les deux langues.
Oui, comprenant le flamand, mais parlant étant voilà. Plutôt francophone, oui. Et nous nous rencontrons, c'est, on va dire, le coup de foudre de part et d'autre dès le début. Moi, très impliquée dans ma vie, mes voyages, je bouge partout. Et au bout de quelques années, il me dit très gentiment qu'il faudrait peut-être que j'accepte de l'épouser parce que sinon, ben, il allait me laisser tomber. Donc, je me suis dit, oulala.
Ça, c'était l'ultimatum.
Ah oui, c'était à la fois une demande en mariage.
Mais c'était aussi une demande musclée.
Très musclée. Et donc, naturellement, j'ai tout de suite accepté. Donc, nous nous sommes mariés aux États-Unis.
Pourquoi aux États-Unis ?
Eh bien, parce qu'il a effectué sa demande de mariage. Moi, j'étais aux États-Unis pour le travail. Lui, il était à New York pour les diamants. On s'est retrouvés à Miami. L'ultimatum était musclé, comme vous le dites. Et puis, à Miami, on peut tout de suite exécuter.
Ah oui,
tout à fait. On peut se marier tout de suite.
Oui.
Donc, je me suis mariée à Miami en short. Mais j'avais un short blanc.
Ah, c'est très mignon, ça.
Voilà.
Voilà.
On s'est mariés en
donc
Floride.
Donc, tu rentres à Paris mariée.
Exactement. Je rentre à Paris mariée. Lui rentre en Belgique.
Et tes parents, qu'est-ce qu'ils ont pensé de tout ça?
Ah, mais ils l'adoraient.
Donc, très bien. Donc, pas de problème.
Non.
Ils n'ont pas trouvé que la cérémonie religieuse avait été bâclée.
Oui, mais alors, justement, ils râlaient un peu parce qu'on avait décidé quand même de se marier.
Sans eux, quand même.
Oui, alors toute la famille avait dit, mais comment vous organisez un mariage?
Pas de robe de princesse
Non, donc pas de robe de princesse. Mais bon, le plus important, un magnifique compagnon.
Absolument, voilà. Bien sûr que c'est le plus important.
Voilà. Ça va sans et donc, dire. On a organisé une réception à notre retour. Tout simplement.
Sans problème.
Voilà.
Et alors, Genève?
Donc, là, il se décide. Bon, moi, entre-temps, j'étais en poste en Autriche, à Vienne. Donc, j'ai été jusqu'à la fin de mon mandat. Donc, c'est-à-dire, on s'est mariés le 9 novembre, jour de son anniversaire. C'était une façon de ne pas oublier
oui, c'est
la
sûr.
Date. Donc, nous avons déménagé à Genève en janvier 1993. Et il a décidé de s'installer à Genève parce qu'à l'époque, bon, mon mari était un spécialiste à la fois des pierres brutes et taillées. Il était cliveur lui-même. Et le plus grand tailleur de grosses pierres était M. Horowitz, qui était basé à Genève.
Tout à fait.
Donc, ouais. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes installés à Genève. C'est un hasard.
D'accord. Et alors, depuis,
depuis,
la curiosité
me
pousse à te demander s'il est toujours diamantaire. Et s'il
alors,
est...
malheureusement, il est mort dans un accident de voiture quand notre fille a eu, juste à la veille de son anniversaire, de ses 5 ans. Donc, parce que nous avons une fille, Charlotte, qui est née en octobre 93. Et donc, 5 ans après, il est décédé dans un accident de voiture en Afrique. Bon, je suis restée à Genève parce que j'y étais bien, j'avais toutes mes origines ici. Enfin, c'était la maison, comme j'aime à dire, je suis de partout et de nulle part. Et Genève correspond énormément à ce genre de profil.
Tu as choisi justement le Requiem de Mozart.
Thank you.
Radio Cité Genève. Viviane DeVitte.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec Catherine Fiancamp-Bukonga. Catherine, on vient de t'écouter avec une certaine émotion parce qu'on découvre que tu es donc diplomate, bien sûr, mais une toute jeune veuve, maman d'une petite fille de 5 ans. Tu es très jolie. Il n'y a pas la télévision, mais c'est une réalité. Et là, alors, que devient ta vie? C'est quand même difficile.
Retour à la vie active pleinement parce que mon mari ne souhaitait pas que je travaille à plein temps. Il voulait avant tout que je m'occupe de lui et de notre fille. Donc, j'avais repris l'écriture. Donc, je faisais ce qu'on appelle des piges pour des journaux déjà. À son décès, je reprends pleinement mes activités. Je fais appel à mon réseau d'amis à gauche et à droite pour justement revenir pleinement à la profession. Et c'est ce que je fais en devenant correspondante justement au Palais des Nations à Genève de différents médias, presse écrite, radiophonique et télévisuelle.
Alors ça, ça a été une très grande partie de ta vie. Je t'ai connue d'ailleurs, tu étais représentante. Tu avais d'innombrables casquettes d'ailleurs. Décris-les-nous un petit peu, parce que pas seulement celles que tu viens de décrire.
Alors effectivement, l'écriture, des correspondances, la presse a beaucoup évolué ces dernières années, dû en partie aux nouvelles technologies, mais également à la globalisation. Donc la profession de journaliste ou de correspondant n'est plus la même. Dans le temps, on avait une position, on avait un salaire mensuel et on représentait un média unique puisqu'on était comme une espèce de fonctionnaire de l'institution. Aujourd'hui, au vu de ce qui se passe, de la crise financière, nous sommes des correspondants officiels, mais nous sommes payés à la pièce. Donc, pour y arriver financièrement, automatiquement, nous sommes des représentants de plusieurs médias. Et quand, comme moi, on se sent à la fois à l'aise dans le radiophonique, le télévisuel et l'écriture, à ce moment-là, on est correspondant de plusieurs médias. Donc, moi, j'ai été correspondant
de France 24.
Alors, je suis toujours correspondante de la télévision française France 24, qui est une chaîne étatique qui comporte trois versions, l'une en français, l'autre en anglais et la troisième en arabe. Je suis également correspondante de Radio Vatican, chaîne bien connue mais en français, et je continue naturellement à être correspondante pour des médias variés, surtout lorsqu'il y a des grands événements qui se déroulent à Genève. Et en ce moment, depuis quelques mois, nous avons les discussions de proximité, de paix sur la Syrie, ce qui me donne l'occasion de énormément travailler, mais aussi de partager l'actualité avec des médias un peu partout dans le monde.
Tu es aussi vice-présidente de beaucoup d'associations, membre de comités d'innombrables associations
Exactement.
De journalistes.
Exactement. Je considère que si l'on souhaite changer les choses ou que l'on souhaite les faire évoluer, rien ne sert de critiquer de loin. Il faut au contraire s'impliquer dans justement la vie active, que ce soit la vie active de notre quotidien en tant que participant vivant dans une cité, mais également dans la vie professionnelle, de se faire élire par ses confrères et ses consoeurs pour les représenter. Donc, effectivement, je suis vice-présidente de l'association des correspondants accrédités auprès des Nations Unies. J'ai été dans le passé vice-présidente de l'association de la presse étrangère en Suisse, la PES.
Et au Liechtenstein.
Exactement, et au Liechtenstein. Et je suis également dans le comité du Club Suisse de la presse. Tous ces comités, pourquoi ? Pour justement donner une meilleure visibilité et vision de ce que la profession est aujourd'hui, empêcher que le torchon se restreigne encore, parce qu'il est très important pour permettre de continuer d'avoir la même liberté d'expression, liberté justement d'expression de la presse. Il faut qu'en tant que journaliste, on tire les sonnettes d'alarme quand c'est nécessaire, mais également être, et là je retourne à mes premières amours, une sorte d'ambassadeur pour ses pairs, autant recevoir les nouveaux correspondants journalistes au Palais des Nations Unies, mais également montrer la diversité et la richesse de Genève, de la Genève internationale et de la Suisse.
J'allais dire vaste programme que tu as là. Parce que c'est un programme à multiples casquettes.
Tout à fait.
Et tes journées doivent être bien remplies.
Oui, on se lève tôt et on se couche tard. Oui.
Ça, c'est au fond, c'est un peu croquer la vie par tous les bouts, mais on passe tellement peu de temps sur cette planète que je pense que c'est une façon intéressante de vivre ces quelques années.
Et ça nous garde jeunes et dynamiques.
Tout à fait, Catherine. Alors, très récemment quand même, parce que ça ne fait pas très longtemps, tu vas nous le raconter, tu as été nommée rédactrice en chef du journal mensuel La Cité, qui est donc un journal, un papier, qui est d'ailleurs un journal, j'en ai un à côté de moi, qui a de très jolies photogravures pour un journal papier, parce que très belles photos en couleur, ça c'est intéressant. Mais plus encore, bien entendu, les articles. Alors raconte-moi comment tout ça est arrivé.
Alors pour essayer d'expliquer la raison pour laquelle j'ai accepté de prendre cette direction et surtout de relever le défi, c'est justement dû au contexte actuel et à l'évolution de la profession de journaliste. De plus en plus, il est difficile pour les journalistes de s'exprimer parce que d'une part, les médias sont rachetés par des grands groupes internationaux, des multinationales qui vendent autant du papier que des produits, que de la voiture, que toutes sortes d'éléments. Donc très souvent, il nous est imposé ou fortement conseillé ou déconseillé d'aborder certains sujets. Et la plupart des journalistes sont frustrés de ne pas pouvoir s'exprimer jusqu'au bout. On nous demande en quelques lignes d'exprimer et d'expliquer au lecteur ou bien à l'auditeur ou au spectateur qui regarde le programme de télévision, en quelques lignes, en quelques mots, d'expliquer un conflit ou bien une situation qui se déroule dans le monde industriel, commercial. Alors, tous les journalistes ont cette frustration. Et je me suis dit, il faudrait avoir une plateforme qui me permette non seulement à moi de m'exprimer, pas de manière, on va dire, égoïste, mais de permettre d'exprimer et d'expliquer aux gens ce qui se passe réellement. Et mes collègues, que je côtoie donc naturellement plusieurs heures par jour, qui sont très souvent aussi d'origine multiple, ont le même problème que moi, c'est-à-dire qu'ils ont cette frustration. Et voilà pas que Fabio Loverso, le fondateur et directeur de la publication La Cité, me propose un jour, au cours d'une conversation, il me dit « Mais est-ce que ça t'intéresserait de prendre la rédaction en chef de La Cité ?» Alors, je dois vous avouer qu'au départ, je ne l'ai pas pris au sérieux. Et puis, il est revenu à la charge, puisque la rédaction en chef était depuis 2 ans dans les mains de Jean-Noël Queneau, journaliste bien connu qui vit à Paris, passionné par la vie parisienne et la vie française, et qui avait justement de nouveaux défis qui se présentaient à lui et qui avait envie de prendre un peu de distance avec La Cité. Donc, j'ai dit oui, pourquoi pas, banco, on y va. Et j'essaye depuis 3 mois de, on va dire, peaufiner le travail qui a déjà été effectué avant moi, à la fois par Fabio Loverso et par Jean-Noël Queneau.
On va y revenir tout à l'heure parce que c'est passionnant. Et puis, on va écouter maintenant ce que tu nous as choisi, Hello par Adèle.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. To go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called. Yes.
you. It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
Cité Genève sur internet
www.radiocité.ch.
Vous êtes dans la bouteille à moitié pleine avec Catherine Fiancan-Bukonga. Catherine, on a vu quelle vie riche, quelle vie passionnante. Tu es une femme passionnée et te voici maintenant rédactrice en chef de ce journal qui est à Genève et qui s'appelle La Cité. J'en ai un exemplaire à côté de moi. Tu m'as expliqué que c'était un journal qui était attaqué sa cinquième année. Alors, parle-nous du journal et de ton activité dans ce journal.
Alors effectivement, La Cité va fêter ses 5 ans, son 5e anniversaire au mois de septembre. C'est un journal qui est mensuel, le journal papier est mensuel. Il a pour objectif avant tout d'être un journal qui propose des articles d'analyse, de fond, des enquêtes, ce qui permet aux personnes de prendre le temps de lire, le temps aussi de comprendre. Je ne dis pas que nous ne sommes pas en phase avec l'actualité, mais nous prenons le temps de comprendre notre monde, de comprendre les choses, autant au niveau politique, économique, artistique. Alors moi, j'ai décidé depuis le 1er mars, date à laquelle j'ai repris les rênes de La Cité, d'abord d'introduire une chose qui est très importante à mon avis, c'est non seulement les mots mais également l'image. On a envie de lire quelque chose lorsque on voit une belle image qui correspond ou qui invite le lecteur à aller dans les détails.
Est-ce que ça veut dire qu'avant toi, il n'y avait pas d'image ?
Il y avait de l'image, mais on ne prenait pas autant de soin. Donc,
oui, la photogravure est très bien.
Merci beaucoup. Parce qu'il faut dire que l'ambition, par la suite, est de transformer ce journal papier en magazine. Parce que la remarque a été plusieurs fois faite, qu'on souhaiterait plutôt le format magazine, qui est un peu plus actuel, justement, pour être emporté et également distribué. La deuxième chose que j'ai souhaité apporter, c'est de créer un site internet. Alors, nous avons un site internet qui est www.lacité.info. Et ce site, lui, est beaucoup plus en phase avec l'actualité quotidienne. Donc là, de manière quotidienne, vous avez des articles en économie, en politique, art, des expositions, de la lecture qui sont mis à disposition justement des amis de la cité. Maintenant, le journal reste fidèle à sa ligne, donc articles, comme je le disais, de fond. Et j'ai voulu introduire également dans chaque numéro désormais un article en allemand, puisque l'allemand fait partie des langues officielles suisses, mais également un article en italien. Et la dernière chose, un article en anglais, puisque nous vivons dans une société multi- et pluriculturelle où la plupart des personnes qui sont intéressées par ce genre de journal parlent plusieurs langues et très souvent travaillent en anglais. Donc, pour ne pas obliger des personnes à s'exprimer, à écrire dans un français moyen, il est beaucoup plus facile de les autoriser à utiliser leur langue de travail, qui est l'anglais.
Alors, est-ce que ça veut dire, justement, c'était la question que j'allais te poser, donc ils écrivent dans leur langue, ça n'est pas ce ne sont pas des articles que tu as fait traduire?
Pas du tout.
Voilà.
Donc Parce qu'on veut être fidèle à la signification des mots. Les mots ont une portée, une signification qui est propre à la langue, et très souvent, la substance est détériorée par de mauvaises traductions.
Tout à fait.
Donc, nous préférons rester fidèles à des originaux.
Alors, il y a quand même pas mal à lire. C'est d'ailleurs ce qui doit faire le charme, j'imagine, de ce journal. Là, je vois sur un numéro 4 de l'année 5, donc l'avant-dernier, je vois 23 pages. Donc, il y a quand même pas mal de choses à lire et c'est assez varié.
C'est varié. Dans le numéro de mai, la une est consacrée aux Panama Papers. Alors, vous me direz, tout le monde a parlé des Panama Papers.
Oui, mais enfin, nous, c'est intéressant quand même.
Voilà, nous le prenons d'une manière différente, sous un autre angle, c'est-à-dire qui est derrière, justement, les Panama Papers. La distribution des Panama Papers, l'enquête a été effectuée par un groupe de journalistes. Qui sont-ils? Qui les finance? Comment ça se passe? Donc, c'est l'angle que nous avons choisi pour traiter le sujet des Panama Papers. Dans le numéro de mai, nous avons aussi, toujours dans le journal La Cité, la page 2 et 3 sont consacrées à des éclairages, c'est-à-dire que l'on essaye d'expliquer de manière un peu plus approfondie des événements ou des situations. Alors, au mois de mai, nous avons à la fois une explication de la situation en Syrie, qui est rédigée par le professeur Mahmoud Mohamed Mohamedi, qui est le dean du Geneva Center for Security Policy, mais qui est également, qui a été consacré pour la troisième année de suite, si je ne me trompe, parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. Donc, le professeur nous fait l'honneur, justement, de partager avec les lecteurs de La Cité son analyse sur la situation syrienne. Mais nous avons également un article qui explique et analyse en profondeur la reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba.
Et ça, c'est très intéressant aussi, puis c'est tellement d'actualité. C'est d'ailleurs assez extraordinaire de voir, on a vu ça à la télévision aussi, on a vu ces gens qui agitaient des drapeaux américains et qui expliquaient que leur famille était partie. Donc, les gens qui revenaient, en fait, étaient des Cubains. Ces visiteurs, ce n'étaient pas des touristes.
Exactement.
C'était des gens, des membres de leur famille qui revenaient au pays et qui découvraient un nouveau pays.
Alors justement, nous avons un spécialiste qui étudie la raison pour laquelle cette reprise des relations diplomatiques s'effectue maintenant. Pourquoi ça a traîné aussi longtemps? Quels sont les enjeux? Quels sont les intérêts?
Mais c'est le frère aussi de Fidel Castro, donc c'est son frère. Hein. Ce n'est pas celui qui a pris la décision de rupture.
Exactement. Donc tout ça est analysé et expliqué dans ces deux premières pages qui sont consacrées à des éclairages de situation. Mais le journal aussi, nous consacrerons toujours au moins deux pages à des interviews d'écrivains, d'auteurs. Cette fois-ci, ce sont deux écrivains sud-africains. Nous accordons toujours beaucoup d'importance justement au visuel. Nous avons de très, très belles photos qui sont là pour essayer de donner envie aux lecteurs de se plonger justement dans cette présentation de mots.
Ma chère Catherine, on arrive malheureusement, et c'est toujours trop court quand c'est passionnant comme ça, au terme de cette émission. Je te remercie beaucoup d'être venue nous parler du journal La Cité que tu diriges. Je voulais aussi te dire que je te remercie tout particulièrement parce que je sais combien tes journées sont énormes et tu as plusieurs casquettes, tu cours partout et tu es une femme extrêmement occupée et extrêmement professionnelle en tout. Merci beaucoup. Tu es une amie de Radio Cité puisqu'on a eu la chance de t'avoir comme journaliste ici. Ça te faisait lever très très tôt le matin. Et voilà, c'était un autre exercice. Mais merci du temps que tu as passé aussi ici et du temps que tu nous as consacré aujourd'hui. Et j'espère à très bientôt.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Et on remercie aussi Alexandre Jean-Renaud, notre ami, qui est notre technicien et qui monte ses émissions. À bientôt Catherine.
Merci Viviane, à bientôt.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.